En ce 23 octobre 1996, on célèbre de plus en plus la fête du bienheureux frère Arnoux, un frère des écoles chrétiennes, qui a vécu en France et qui a été béatifié il y a moins de 10 ans. C'est un éducateur d'école confessionnelle, et c'est pour ça que je tiens beaucoup à le faire. L'an dernier, je vous avais parlé de Saint-Jean de Capistran, surtout, je vous avais glissé un mot de ce frère, Arnoux, et je vous avais aussi parlé de Paul Tillich, ce grand théologien protestant. Il me semble qu'il est important de revenir sur ce frère Arnoux, et lui consacrer toute l'émission. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est le 1er novembre 1987 que le pape Jean-Paul II a béatifié ce frère des écoles chrétiennes, cette congrégation de laïcs qui font des vœux, car les frères sont des laïcs, ne l'oublions pas, ce ne sont pas des clercs, ce sont des laïcs consacrés. Et ça a été fondé par Saint Jean-Baptiste de la Salle, un prêtre, dont je vous ai déjà parlé. Il a donc, le pape, béatifié le vénérable frère Arnoul Resch, que l'on appelle maintenant le bienheureux frère Arnoul Resch, c'est R-E, accent grave, C-H-E, de son nom de baptême, Jules Resch. On peut se demander pourquoi béatifier. C'est que l'Église, en agissant ici, un double but, c'est de reconnaître officiellement les mérites de ceux et celles, si humbles soient-ils, qui ont brillé par leur vertu évangélique, et ainsi de nous les proposer comme modèles à nous qui cheminons encore sur la terre. Notre unique et vrai modèle, c'est évidemment Jésus-Christ. Mais ceux qui ont imité Jésus-Christ, et qui ont vécu il n'y a pas si longtemps, sont souvent des modèles qui peuvent nous aider à l'occasion. C'est Vatican II, d'ailleurs, qui parlait du culte des saints en disant, c'est les évêques du monde entier, donc, qui disaient, voici le texte, il nous est donné de chercher dans leur vie un exemple, dans leur communion, une participation à leur bien. Et dans leur intercession, un secours. Moi, je dirais que quand on lit des vies de saints, quand on prend contact avec toutes ces personnes, on peut peut-être se décourager, diront certains. Mais je crois qu'au contraire, ça ne peut qu'à la longue nous stimuler. Et dans la vie du bienheureux frère Arnoux, les faits, les gestes qui peuvent être proposés à notre imitation sont nombreux. Oui, très nombreux. Mais à considérer cette vie très simple, mais pleine tout à la fois, on s'aperçoit d'abord que c'est l'histoire d'une vocation. Oui, c'est pour ça que j'en parle aussi. Nous manquons tellement de vocations religieuses. On dira pourquoi en parler. C'est fini les vocations. Pourtant, on sait ce que c'est l'appel de Dieu qui assigne à chaque homme, à chaque femme, l'état de vie auquel il le destine. Et si cette question en effraie quelques-uns, ou même plusieurs, il n'en demeure pas moins que c'est d'une urgente actualité, et de plus en plus, notre Église ici a besoin de nombreux prêtres, de religieux, de religieuses, de missionnaires, de personnes engagées, pour que par eux se continue la libération des hommes et des femmes. Il faut être réaliste, hein? Il faut admettre que les milieux qui facilitent l'épanouissement des vocations sont à peu près disparus. En tout cas, c'est très affaibli. Nos écoles ne sont pas des endroits très propices. J'ai sous les yeux un très beau texte de Luc Faneuf qui fait des émissions chez nous particulièrement. Dans ce texte, il dit à un moment donné que ce que les laïcistes, ceux qui veulent l'école neutre pour tous, semblent avoir oublié que la religion, avant d'être un contenu cognitif, une quincaillerie à acquérir, selon l'expression plus ou moins respectueuse d'un laïciste acharné. Mais la religion vise surtout à construire les êtres de l'intérieur, à forger des consciences au service du bien commun, à faire des êtres humains plus pleins, plus riches et solides intérieurement, des êtres humains lumineux qui sauront apporter un peu de joie dans notre monde si triste. La religion catholique est au service de la grandeur, de la beauté, de la dignité, de l'unicité et de l'incommensurable richesse de tout être humain qui foule le sol de notre terre commune. Et Luc Faneuf se pose la question, sont-ils conscients de la fracture intérieure qui caractérise la condition humaine, qui nous touche tous, jeunes et moins jeunes, et qui appelle le secours de la religion? Et ce, depuis l'aube de l'humanité, depuis que l'homme est homme. Quel texte magnifique! J'aurais le goût de tout vous lire, mais je n'y ai pas demandé la permission. J'espère qu'il ne m'en veut pas. Mais c'est un texte admirable, superbe, qu'il m'a remis il y a quelques jours. Jules Reich, ce bienheureux frère Arnoux, avait 24 ans quand il est entré au noviciat des frères. Une sorte de vocation tardive, hein, jusqu'à un certain point. Il est né dans un village, le village de Landroff en Lorraine. Dans ce village, de vieilles maisons, un seul étage. Le toit est bas, recouvert de tuiles rouges, et un peu partout il y a des fermes. Son père est cordonnier, le cordonnier de la région. Le logis n'est pas riche, comporte deux chambres, oui, seulement deux chambres, une cuisine au rez-de-chaussée, deux autres chambres à l'étage, il a un étage. Et alors, derrière la maison, une petite grange, quelques dépendances, il a quelques poules, des lapins, des chèvres, des porcs, c'est le petit bétail des humbles, pour dire qu'il est cordonnier, hein. Mais cette famille vit heureux, et un dimanche, le 2 septembre 1838, naît Jules Reich. On l'appelle Jules Nicolas au baptême. Mais les enfants ne savent pas qu'ils seront des saints un jour, et les parents encore moins. Mais pourtant, Dieu nous fait toujours un cadeau d'un saint quand on met un enfant au monde, ou qu'on en adopte un. Car nous sommes tous appelés à la sainteté. Si les parents faisaient vraiment ce qu'ils ont à faire, et si toute la société endossait le projet de Dieu, nous serions tous des saints, je pense. Mais c'est un rêve. Les parents rêcheront plusieurs autres enfants. Ils seront bientôt 7, même 8. Ils seront 10 à table. Sur les genoux de leur mère, ils entendent parler du bon Dieu. Comme on faisait il n'y a pas si longtemps, et j'espère que ça se fait encore beaucoup. Ils apprennent à balbutier leur première prière. Et chaque soir, devant le crucifix, dans cette maison en Lorraine, dans l'est de la France, toute la famille s'agenouille et on dit la prière, on récite le chapelet. Les petits garçons de Landroff aiment aussi ce Jules Reich. C'est un bon camarade. Il joue de bon cœur avec eux, mais pourtant, on le voit parfois qu'il s'écarte de la bande des amis pour réciter une courte prière. Il aime prier. Quelques-uns se moquent de lui, mais la plupart sont impressionnés. En Lorraine, la plus grande fête des enfants, à cette époque, c'est le 6 décembre. Et qu'est-ce qui se passe? On ne connaît pas ça ici. C'est la Saint-Nicolas, oui, c'est le jour où ils reçoivent des jouets, des cadeaux, des gâteries. Et ce jour-là, le curé s'approche de lui et lui dit, « Jules, est-ce que tu voudrais être un enfant de cœur? » Ce curé s'appelle l'abbé Grégoire, comme notre ex-archevêque et cardinal Grégoire. Oh oui, monsieur le curé, je voudrais bien, mais je suis encore bien petit. Et le curé lui dit, justement, il me faut des grands et des petits, le principal est d'être pieux, sérieux, c'est normal. Alors cette fonction de servant de messe le remplit de joie et de fierté. Donc son curé, monsieur l'abbé Grégoire, qui va rester 40 ans dans ce village, il aime les beaux offices où il y a de nombreux enfants de chœur qui évoluent en petites soutanes rouges comme j'en ai porté quand j'étais servant de messe à Sainte-Madeleine d'Outremont, dans les années 30. Après les cérémonies de l'Église, ce que je l'aime le plus, c'est le catéchisme. Parfois, monsieur le curé pose des questions difficiles. Les gars de Landroff ne savent pas quoi répondre, mais il y a un doigt pourtant qui se lève, toujours le même, c'est Jules. Et ses réponses sont justes. Mais où donc ce Jules va-t-il chercher les explications qui font l'admiration de tous? D'abord, son père, qui est très instruit de la religion, ne manque pas de l'enseigner à son enfant, qui est si bien disposé. Puis en grandissant, Jules Resch a pris goût aux lectures sérieuses, il lit des Vite Saints qu'il emprunte à son curé. Ça existe des Vite Saints pour les enfants, hein? Vous pouvez en acheter. Il lit même l'Évangile dans des livres pour enfants, et d'autres livres de piété qui sont prêtés par monsieur le curé. Ça l'intéresse plus que le jeu, souvent. Parce que quoi? Parce que ça contente cette curiosité qui est née dans son cœur. Cette curiosité habite la plupart de nos enfants. Chaque dimanche, désormais, on va pouvoir voir, avant les vêpres, une dizaine de garçons à l'église qui s'assoient en cercle autour de Jules. Il les garde parfois une heure sans que personne s'ennuie parce qu'il leur raconte de belles histoires qu'il a trouvées dans les Vidis. Je tiens à saluer, à ce moment-ci, une dame rabat qui est professeure de religion et qui réunit souvent ses élèves en classe pour écouter cette émission à 10 heures le matin. Elle me dit que les enfants qui ont 15 ans adorent ça. C'est une bonne idée, peut-être. Un soir, un dimanche, devant la maison des Resch, les enfants continuent à jouer et à crier. Alors M. Resch appelle son aîné, Jules, et lui dit « Assieds-toi près de moi. J'ai quelque chose de sérieux à te dire, nous sommes nombreux à table, tu le sais, mon gars. J'ai bien du mal à vous nourrir tous, ça nous cause des soucis d'argent, et ta mère en a tellement de chagrin que tu la vois depuis quelque temps, elle est malade. Hein? Ça nous rend tous malheureux, mais toi, tu es déjà grand. Tu n'aimerais pas m'aider à gagner un peu d'argent? » Il lui dit, « Mais oui, je ne demande pas mieux, papa. Alors, voilà, mon garçon, ce matin, j'ai réglé ta sortie de l'école avec l'instituteur. Je lui ai promis que tu irais au cours du soir en hiver. » Il dit, « Je vais te placer chez M. Gerbert. » Alors, il le place chez cet homme qui a une ferme pas très éloigné de là. Alors il gardera les vaches, donnera à manger aux bêtes, guider les chevaux à la charrue. Mais Jules n'a pas fait encore sa première communion, il y pense, bien sûr. Dans ce temps-là, on faisait sa première communion vers l'âge de 13 ans. Alors Jules devra attendre, et son cœur attend impatiemment celui qu'il aime déjà, Jésus. Et le jour arrive enfin, il est 10 heures, et les cloches de la nouvelle église sonnent à toute volée. Les paroissiens se dirigent vers l'église. C'est le moment solennel, la première rencontre de Jésus avec cet adolescent de 13 ans. Une rencontre dans la présence réelle. Il lui faudra attendre jusqu'à 16 ans pour recevoir le sacrement de confirmation. Il va rester pendant tout ce temps-là le catéchiste de ses camarades. C'est une petite perfection, ce petit garçon, pas du tout. Il a ses défauts. Il se fait gronder, il est lent dans sa démarche, ça lui arrive d'être en retard, hein? Mais il se fait corriger. Et parfois il s'attarde en chemin quand il va porter la soupe aux ouvriers dans les champs, il s'arrête un instant près d'une petite rivière, il regarde les poissons. Alors il s'excuse en arrivant, « Je vous demande pardon, mais les petites fleurs étaient si belles et les poissons, je les aime. » Et Jules a grandi, puis il a maintenant 18 ans, c'est un bon garçon, figure pleine aux larges épaules, et là, il sera envoyé dans une ville non loin de là, pour y travailler comme ouvrier dans la construction, et nous verrons le progrès de sa vocation. Un jour, il y a un rassemblement devant le placard des affiches communales, c'est écrit « Le maire de Landroff porte à la connaissance de ses concitoyens que M. Bourguignon, entrepreneur habitant la commune, va dans la huitaine, dans 8 jours, quoi, embaucher des volontaires pour la construction d'une église à Charleville. Un bon salaire leur sera assuré. se présenter chez M. Bourguignon le matin de 8h à 12h. Alors, Jules se tait, il réfléchit, il va trouver son père. Il dit, « Papa, tu crois pas que je pourrais t'aider davantage en m'engageant au chantier de M. Bourguignon? Alors, ton père est du même avis. » Jules a 21 ans à ce moment-là, il part donc pour Charleville. Mais il était mal préparé à vivre dans un milieu ouvrier d'une ville et sa piété baisse. Plusieurs de ses compagnons sont de bons gars, mais il y en a d'autres qui sont légers, qui boivent beaucoup. Ils n'ont aucune vie chrétienne, qui plaisante sur la religion, qui ridiculise toutes les pratiques religieuses, qui tiennent même des propos bien grivois, et devant l'insistance de ses camarades, eh bien, la résistance de Jules Reich faiblit un peu. Il décide de sortir un peu avec eux, subit une mauvaise influence, aura un bon jour. Il se fait poser la vraie question. C'est une femme de Charleville, c'est une compatriote parce qu'elle est originaire de Landroff, son village natal, où elle avait bien connu le jeune Reich. Elle constate qu'il fléchit dans sa piété. Un beau jour, elle n'y tient plus, elle lui dit, « Jules, comme tu as changé depuis quelque temps. Au lieu de courir après les joies et les fêtes, tu ferais mieux d'aller aux réunions que les frères des écoles chrétiennes, organise chaque dimanche pour les jeunes gens. » Et cette simple remarque qui est inspirée, je le crois bien par Dieu, ça fait réfléchir ce jeune ouvrier. Le dimanche suivant, il accompagne un camarade chez les frères, qui sont des inconnus pour lui. Mais désormais, ce jeune ouvrier ne connaît plus que trois chemins. Bien oui, il se rend au chantier, il se rend à l'église, il se rend à l'école chrétienne. À l'école chrétienne. Une école confessionnelle, comme on dit ici. Et habituellement, il récite le chapelet en conduisant son attelage. On le voit même s'agenouiller sans respect humain, en plein chantier, pendant que ses chevaux soufflent entre deux voyages. Et sa journée terminée, il se rend à l'ancienne église pour adorer Saint-Sacrement, et souvent il y reste qu'à la fermeture des portes. Vous direz, c'est une belle vie. Il était vigoureux, il gagnait de l'argent. Il ne faut pas croire que cette espèce d'austérité de la vie de ce jeune homme était désagréable, le rendait désagréable en société. C'est tout le contraire. Il est serviable, c'est un chic type. Le ton, par exemple, avec lequel il reprend un blasphémateur qui a lancé un gros juron, est plein d'une cordialité. Il a le sourire aux lèvres quand même, et ça touche celui qui serait coupable, n'est-ce pas, d'avoir blasphémé. Il dit des choses stupides contre la religion, et comme Malandroff, bien ses camarades l'aiment. Ça prouve d'ailleurs qu'il est aimable. Il est très gentil. Il est même le plus aimable et le plus gentil. Et souvent, les saints sont comme ça. Il y a des saints qui sont désagréables, il y a des saints qui sont gentils. Un bon jour, à 24 ans, il se pose des questions. Il se demande s'il ne devrait pas devenir trappiste. Oui, comme ceux d'Oka, là. Ou chartreux. Un peu comme ceux que nous avons maintenant à Chersey. Ils s'appellent pas chartreux, les nôtres, mais ce sont des chartreux, en fait. Ils sont 8. Il y a 20 moniales à Chersey. Un dimanche soir, après le patronage, il aborde le frère directeur, puis il dit qu'il veut devenir religieux. Et puis il dit au frère, mon salaire est plus indispensable à la famille, puisque mes frères Victor et Joseph ont grandi, alors... Le samedi 23 décembre 1862, il y a une très belle cérémonie, c'est la prise d'habit du postulant Jules Reich. Ça se déroule ainsi. Voulez-vous vraiment devenir frère des écoles chrétiennes? Promettez-vous d'observer fidèlement la règle des frères? Voulez-vous consacrer votre vie à l'éducation des enfants? Et chaque fois, d'un ton grave et assuré, bien Jules Reich répond, « Oui, cher frère visiteur, c'était la formule à l'époque. » Il reçoit alors des mains du délégué du supérieur général, c'est pour ça qu'on l'appelle visiteur. Il reçoit l'habit religieux. Et je me souviens qu'on le baisait, notre habit religieux, respectueusement. Et il s'en revêt dans une salle voisine, puis il revient tout transformé. Et le rêve de Jules est enfin réalisé. Il porte cette grande robe noire qui était magnifique, ce grand vêtement noir des frères des écoles chrétiennes, avec ce beau rabat blanc qui leur donnait une allure déjà magnifique. J'aimais beaucoup ce costume. Il portait dans ce temps-là la calotte, ce serait évidemment impossible aujourd'hui. Ils avaient d'ailleurs un chapeau aussi et un manteau qu'ils portaient sans l'enfiler. Hein. On les appelait les frères quatre bras. Ça leur donnait comme quatre bras. C'était leur surnom en France. Après la remise d'un crucifix puis du chapelet à six dizaines, qui était particulier aux frères des écoles chrétiennes, le président annonce, Monsieur Jules Reich portera désormais le nom de frère Arnaud. L'année du noviciat se termine. Une lettre du frère visiteur arrive, où l'on dit, notre cher frère Arnaud devra se rendre du noviciat de Beauregard, où il a fait son noviciat, à notre pensionnat Saint-Joseph de Reims, oui, à Reims, où le pape vient d'aller, cette capitale de la Champagne, pour y faire l'obéissance. Ma famille, moi, les beaux grands Champagnes, ça vient de près de Reims. Selon toute apparence, cet ordre apporte une sorte de déception, frère Arnaud, son caractère et ses goûts, lui, il aime mieux l'école populaire. Là, il va s'en aller dans un collège, dans un pensionnat. Donc le lendemain, il part. Il sait que Dieu l'envoie. Reims, c'est la première fois que le frère Arnoux contemple cette ville. C'est la ville du baptême de Clovis, comme on l'a appris il n'y a pas longtemps. Ce baptême de Clovis par Saint-Rémy en 496, hein, c'est la date fixée. Reims, c'est la ville des sacres des rois durant plus de 1000 ans. Reims, c'est là que Jeanne d'Arc a conduit Charles VII pour être sacré roi de France. Reims est la patrie de Jean-Baptiste Lassalle, le saint de l'école chrétienne. Et sans tarder, le frère directeur va lui préciser ses fonctions. Il lui confie une petite classe, 30 enfants. Dans cette classe, il est assis à son bureau, il regarde ces enfants-là, une famille aisée. Alors, le frère Arnoux, quand il était obligé de gagner sa vie, il avait peu fréquenté l'école de son pays natal. Ce n'est qu'à 21 ans, chez les frères de Charleville, qu'il avait vraiment commencé à s'instruire. Mais dès son arrivée au pensionnat de Reims, il se met à l'étude avec entrain, puis finit par être un des frères les plus instruits du pensionnat de Reims. Il y a une communauté là de 36 frères. C'est un modèle de piété. L'humilité de ce frère émerveille les enfants qui le considèrent comme un saint. Mais survient la guerre de juillet 1870, la guerre franco-allemande. Et là, les écoles des frères de France deviennent à la disposition du ministre de la guerre. Il y a bien des souffrances et le frère Arnoux se multiplie, il lave, il panse les blessures selon l'ordre du médecin. Pendant cette période, eh bien, les médecins, les officiers, avaient bien des fois remarqué le dévouement extraordinaire de ce frère Arnoux. Ils ont insisté pour que la médaille de la Croix-Rouge lui soit décernée. Il n'en a tiré aucune vanité, évidemment. À côté des citadins rémois nombreux, il avait aussi une clientèle paysanne, pour qui on a créé une section agricole et qui pouvait mieux enseigner l'agriculture que le frère Arnoux. Hein. Alors le matin, le frère Arnoux enseigne en classe les connaissances générales utiles à un cultivateur, là, comme la botanique, la chimie, la zootechnie. Puis l'après-midi, bien, c'est consacré aux travaux pratiques dans un jardin. On le voit à l'œuvre en tablier bleu. Il y a la pioche à la main, la bêche, le sécateur. Il chargit l'ornementation de la cour d'honneur. Il vient d'avoir 33 ans finalement. Depuis 9 ans bientôt, il mène la vie de frère. Il en sait toutes les fatigues, les austérités, mais surtout les joies et les merveilleuses fécondités. Oui, il y a de la joie à être religieux et une grande joie à se sentir utile. Et jamais il n'a regretté, pas même une minute, de s'être donné totalement à Dieu. Arrive le jour de sa profession perpétuelle, où le frère, bien que laïque, émet des vœux pour toujours. Il s'engage, le 6 septembre 1871. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je me consacre tout à vous, pour procurer votre gloire autant qu'il me sera possible, et que vous le demanderez de moi. Je promets de garder inviolablement les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance pendant toute ma vie. C'est une très belle formule trinitaire. C'est très beau. Alors les pensionnaires de Reims à Tilloy ont passé d'agréables heures pendant la belle saison avec le frère Arnoux, qui accompagne souvent ses élèves. Mais arrive un jour où on décide de le nommer directeur du noviciat. Il refuse, mais finit par accepter. Le 16 novembre 1877, il est présenté aux novices. Mes enfants, les supérieurs vont vous donner un directeur plus jeune, un véritable saint, qui fut mon novice à Beauregard il y a 14 ans, leur dit le frère directeur du noviciat. Et alors, il ajoute, mes chers amis, j'ai le grand plaisir de vous présenter, quand le frère arrive, de vous présenter votre nouveau directeur. C'est un homme charmant qui vous a déjà édifié durant ses petits séjours à Tilloy. Un homme qui, et là, le frère Arnoux n'en peut plus devant des éloges, alors il dit, et il est sur les épines et il se demande s'il peut interrompre son supérieur, s'il doit écouter jusqu'au bout les éloges, alors il interrompt et il dit, mes chers frères, on ne vous a envoyé qu'un pauvre homme, mais vous supplierez à mon impuissance par les vues de foi que vous mettrez dans vos rapports avec lui. Je me recommande instamment aux prières de tous, car je ne suis bon qu'à gâter l'œuvre de Dieu. Il a vraiment une sainteté un peu exagérée à ce moment-là, mais il va mûrir. Son humilité va se développer en autre chose. Et petit à petit, il déclare d'ailleurs la vraie vertu ne consiste pas à incliner la tête, à prendre des airs penchés, à soupirer avec dévotion, mais à faire joyeusement et avec courage la volonté de Dieu dès qu'on la connaît. Alors qu'il se refuse à lui-même tout adoucissement, il est au petit soin pour les autres. Il veut que chacun mange bien au réfectoire, que le frère cuisinier prépare des repas appétissants puis abondants. Il dit d'ailleurs que se priver de nourriture est défendu au noviciat. S'il fait chaud, il comprend qu'on ait soif. Après un dur travail, bien, il offre un rafraîchissement à son équipe. À cette époque, ça ne se faisait pas toujours. Aujourd'hui, c'est tellement répandu qu'on est surpris devant une telle remarque. Et comme un vrai père, bien, il veille sur la santé de ses enfants, de ses jeunes novices. C'est ainsi que pendant plusieurs mois, il va panser à genoux les plaies douloureuses de novice avec une charité que le patient, le jeune novice, enfin guéri, à la surprise générale, n'a jamais oubliée. Et pour peu que le mal s'aggrave, il fait venir le docteur, il multiplie les visites charitables. Vous direz, c'est rien du tout, mais c'est plus que ce qu'on faisait autrefois. On était très strict dans ces communautés à l'époque, mais lui, plus souple. Hein? Car les saints tristes, dit-il, ça n'existe pas. Bien au contraire, les vrais amis de Dieu sont toujours joyeux. Ah, voilà pourquoi le frère Arnoux peut écarter à tout prix la peste qu'est la tristesse. Il leur dit d'ailleurs, pas de grise mine. Nous servons un si bon maître. Il aime les figures épanouies, prouvant qu'on est heureux au service de Dieu. D'ailleurs, il dit qu'il fait au démon une guerre sans merci. Le démon de la tristesse, comme il l'appelle. Il profite des fêtes religieuses pour faire vivre les enfants dans un climat de sainte joie. Il n'y en aura plus de fêtes religieuses dans nos écoles si elles deviennent neutres. On aura l'Halloween et des fêtes dans ce genre. Pauvres, pauvres, pauvres écoles. Il les veut belles, majestueuses, avec des chants bien exécutés dans une chapelle qui est ornée avec goût. Il n'y en aura plus de chapelles dans nos écoles, dans nos collèges, si on continue comme ça. Et la fête de Noël demeure la préférée de ce jeune frère. Dans ce dévouement, dans cette tendresse, bien il compatit toujours envers le prochain. C'est là qu'il trouve la clé des jeunes. Tous les habitants de cette noviciat à Tilloy, postulant les novices, les frères, pourront aller trouver n'importe quelle heure, et 20 fois, 30 fois par jour, on frappe à sa porte, il quitte aussitôt son travail, il accueille avec un grand sourire. Quiconque veut demander une permission, un conseil,
ou un peu de réconfort, et la bonté de ce bienheureux frère Arnoux ne l'empêche pas de se montrer à l'occasion très ferme, avec certaines natures qui sont qu'il trouve molles ou un peu déloyales. Et puis, dans sa voix, on sent l'énergie. Il dit, croyez-vous devenir un bon religieux avec de tels défauts? Allez à la chapelle, mon frère, et priez notre Seigneur de vous convertir. Et comme François d'Assise, il y avait, dans ce noviciat, une âme de saint, très sensible aux beautés de la nature. Un jour, il cause dans le parc avec un novice. Et tout à coup, il arrête la conversation et son œil fixe dans le champ voisin une alouette qui monte vers le ciel et chante éperdument. « Ah, dit-il, notre âme est comme l'alouette. Il lui faut quitter la terre, aller à Dieu pour trouver la vraie joie. » Et c'est curieux que cette phrase m'a fait comprendre notre... Nous avions une devise dans notre conventum de rhétorique à Brébeuf en 1944, c'était « Iridet montes a lauda ». L'alouette monte vers les sommets des montagnes. Et là, je comprends aujourd'hui, après tant d'années, le vrai sens de tout ça. Voici une anecdote intéressante. Il dit, voyez-vous, là, parmi ses 30 compagnons, ce grand novice a l'air si distingué, il s'appelle le frère, étrange nom, épouvantable nom, Arèse Casimir. Et le frère Arnoux l'a admis en 1879. Bien, ce frère Casimir avait devant lui un brillant avenir, et il est devenu l'un des plus éminents frères des écoles chrétiennes, assistant du supérieur général des frères. Puis en 1940, à la mort du général, le pape Pie XII l'avait nommé à la plus haute charge de la congrégation en le faisant vicaire général. Et c'est lui qui va gouverner l'Institut aux heures pénibles de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1946. Il a donc formé des frères remarquables. Le frère Arnoux, à quel saint homme, a dit ce supérieur général, un homme à miracle, qu'il faut beaucoup prier, et qui sera peut-être un jour canonisé. Je pourrais vous en parler des heures entières, disait ce frère, c'était la bonté même. C'était la bonté même. Alors voilà, le frère Arnoux qui entre dans la salle des conférences, on retourne en arrière, n'est-ce pas, tous les novices se lèvent, son regard est très doux. Il se promène sur les 30 novices, 30 novices, c'est beaucoup, hein. On n'en a plus comme ça chez les frères. Il parle aussi de Jésus-Eucharistie, modèle d'humilité et de pauvreté. Jésus trop souvent abandonné et oublié dans les tabernacles. Jésus même parfois victime des profanateurs qui profanent l'Eucharistie. Il faut croire à l'Eucharistie pour pouvoir profaner ça. Comment peuvent-ils profaner l'Eucharistie s'ils n'y croient pas? Jésus reçu aussi par le nouveau Judas. Alors le frère Arnoux est visiblement ému de compassion et d'amour pour Jésus dans l'Eucharistie. Son visage se colore quand il parle de ça. Il a des larmes aux yeux, des sanglots qui étreignent sa voix. C'est un homme sensible. Ce n'est pas un faux. C'est sa sainteté qui surgit. Il fait effort d'ailleurs pour se dominer. Il se cache. Il cache sa figure. C'est en vain. Le cœur de ce saint homme est trop plein d'amour de Dieu. Il déborde. Et les novices voient leur frère directeur pleurer à chaudes larmes. Et quand il parle de Jésus enfant, de Jésus crucifié, du péché, du bonheur du ciel, c'est le même attendrissement, les mêmes larmes. Ceux qui le connaissent savent que ces larmes-là sont une grâce toute spéciale de Dieu. On appelle ça le don des larmes. Son frère, Auguste, était revenu du service militaire. Auguste Reich était revenu du service militaire un peu refroidi dans ses pratiques religieuses. On lui avait gardé la foi. Mais il ne voulait certainement pas exagérer en fait de dévotion, comme on dit. Et un certain jour, il lui dit, il est venu d'aller à Tiwa rendre visite à son frère aîné Jules. Le frère Arnoux, quoi. Alors le frère le reçoit très affectueusement, lui fait servir un bon dîner, cause longuement avec lui de la famille, puis du pays natal. Puis, il lui dit, Auguste, je vais te quitter un moment, c'est l'heure de la conférence, il faut que j'aille avec mes novices, mais je reviendrai bientôt. Alors le frère directeur disparaît, et Auguste finit par trouver un bon poste d'observation. Et de là, il peut voir et entendre, tout à son aise, le conférencier, son frère aîné. Et son frère dit de si belles choses, son visage rayonne d'un tel air de sainteté, Et vous devinez ce qui arrive, hein? C'est que l'ancien troupier se sent remué jusqu'au fond de l'âme. Il a les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'il pleure de contrition et d'amour. Pas rien que la contrition, mais de l'amour, hein, de l'amour pour Dieu. Et de retour en Lorraine, il dit à tout le monde, à ses frères, à ses sœurs, « Ah, Victor, Marie, ah, si vous l'aviez vu, je suis sûr, notre frère est un saint. » Son père, M. Resch, n'était pas riche, on le sait. Il a élevé péniblement ses 9 enfants, il leur a laissé pour toute fortune la santé et l'amour du travail. À Jules, son aîné, il a donné cependant ce qu'il avait de plus précieux, son grand amour de la très sainte Vierge. Il l'a donné à ses autres enfants qui l'ont peut-être mal reçu. Le père avait été à Landroff, le village natal, le zélateur fervent d'une confrérie du rosaire, et Jules devait être l'apôtre infatigable de la Vierge Marie. Sur sa table de travail, à la direction du noviciat, il y avait une image de Marie qui est toujours présente. Son chapelet quitte guère ses doigts. Ses lèvres ont murmuré des millions d'ave. Je vous salue, Marie. Comme on peut le faire dans le métro. Ça m'arrive, mais j'ai pas mon chapelet à la main. Mais ça m'arrive souvent, on dirait que c'est une prière qui surgit naturellement, hein. Il disait, et c'est très important, écoutez bien ça. Oh, dites bien le chapelet. J'aime mieux vous voir réciter 3 dizaines avec piété que 5 vaille trop rapidement. Je répète, c'est trop important. J'aime mieux vous voir réciter 3 dizaines avec piété que 5 vaille. On parle pas à la Sainte Vierge en lui disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles est béni. » Est-ce qu'on parle comme ça à quelqu'un qui est de la dignité même, qui est la mère de Dieu? Mais c'est épouvantable. On ne peut prier qu'avec respect. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Oui, on la salue. On lui dit qu'elle est comblée de grâce. On l'admire et on l'aime. Aux fêtes mariales, d'ailleurs, le zèle du frère Arnoux redouble. Son âme passe tout entière dans ses exhortations aux novices. Il les excite à la dévotion à la très sainte Vierge. Il se défie de lui-même. Le frère Arnoux ne veut entreprendre le difficile travail de la formation des jeunes frères que sous la conduite du Christ Jésus. Et ses rencontres avec Jésus dans l'Eucharistie ont quelque chose de très respectueux, de très doux à la fois, qui touche profondément les témoins. C'est 10 fois chaque jour et même 15 qu'on trouve le frère Arnoux au pied du tabernacle. C'est le Christ qui est au cœur de sa vie. Et longtemps avant de l'élever de la communauté, ce saint directeur du noviciat se rend à la chapelle. Je me souviens du père Jean. Nous pourrons le voir à l'écran de télévision au Centre Unitas, le frère Jean, le père Jean à Bédecbel, le 24 novembre prochain, un dimanche, à 2h30. Quel saint c'était bien. Je le voyais, moi, arriver dans la chapelle à 2h30 du matin où j'étais en adoration, je faisais ça en vacances, je fais pas ça tous les jours, hein. Ah oh là là, j'étais impressionné, bien, il faisait la même chose. Et le soir, quand tous ses enfants reposent, il y retourne pour une adoration qui se prolonge plusieurs heures. Et avant d'adresser la parole à ses novices, dans les instructions quotidiennes, bien le frère Arnoux va méditer sa conférence auprès de celui qu'il considère comme son grand ami Jésus. Et l'action de grâce du frère Arnoux, c'était quelque chose de très beau et de très touchant. C'était une âme eucharistique. Au noviciat, d'ailleurs, le frère Arnoux se cache. Il voudrait rester inconnu, mais ses vertus le trahissent. Autant les orgueilleux cherchent à se faire valoir, autant le frère Arnoux lui désire effacer autour de lui l'idée avantageuse qu'on a de lui. Il déclarait, j'étais un pauvre ouvrier, un pauvre professeur. Oh, priez Dieu que je ne gâte pas son œuvre, l'œuvre de Dieu. Thank you. Depuis qu'il est directeur du noviciat, le frère Arnoux a pratiqué deux moyens d'apostolat. La prière intense, oui. Et il joint à ça, selon les perspectives de cette époque, la souffrance volontaire. J'appellerais ça l'ascèse. Il faut être, jusqu'à un certain point, ascétique pour prier de façon intense. Et c'est ce qui compte. Et pour aimer d'un amour débordant. La réputation de ce saint directeur du noviciat se répand au loin, à Paris, mais oui, à Paris, où se trouve alors la maison mère des frères des écoles chrétiennes. Le supérieur général apprend qu'elle est le trésor qui se trouve à Reims, le frère Arnoux. Alors il décide aussitôt de faire bénéficier le plus de frères possible de la grande expérience de ce frère et de sa haute vertu. C'est ainsi que durant 10 années, le frère Arnoux va être chargé de présider pendant les vacances les grandes retraites de 20 ou 30 jours destinées aux frères de 20 à 28 ans. Alors d'ordinaire, bien le frère Arnoux en revient exténué. Il a un besoin de repos. Et qui pourra jamais dire jusqu'où se prolonge cette action d'un saint? Et quelqu'un qui a déjà dit, on ne sait jamais tout le bien qu'on fait quand on fait le bien. Et au frère visiteur, qui se plaint de ne pouvoir répondre à toutes les demandes de frères pour les paroisses, le frère Arnoux répond, « Cher frère visiteur, à Tioua, nous prions bien pour vous et pour les vocations. Quand la nouvelle maison de formation que vous vous proposez de bâtir à Reims, dans le quartier de Courlancy, fonctionnera, vous aurez moins soucis. Alors les maçons puis les novices ont fait si bien que le nid est prêt en 1885, après 16 mois de travail. Le 10 juin, donc de cette année, 85, le frère Arnoux s'y installe avec ses 31 jeunes frères. Comment allons-nous appeler cette maison? Eh bien, la maison du Sacré-Cœur. Et cette maison de Courlancy, à Reims, est pleine maintenant. On y a même aménagé une belle infirmerie pour les frères âgés et malades. Bien entendu, c'est la jeunesse qui l'emporte sans comparaison. Il y a d'abord 50 ou 60 jeunes religieux, novices un peu gauches peut-être, mais si heureux dans leur grande robe noire et leur rabat blanc, scolastiques, étudiants au visage plus viril, et qui rêvent déjà d'un apostolat qui s'en vient, l'enseignement confessionnel. Il y a aussi une cinquantaine de petits novices, les benjamins de la famille, comme on faisait autrefois. Ça a duré jusqu'à assez récemment, ça, d'avoir de tout jeunes novices. En 1888, l'électricité arrivait. Mais évidemment qu'il n'y avait pas de radio, c'est vers les années 27, 28, 30, la radio. Mais évidemment, pas de télévision, encore moins, puis pas de film. Mais que de vocation! À Rome, le 19 février 1888, le pape Léon XIII proclame bienheureux le fondateur des frères, Jean-Baptiste Lassalle, qu'on appelle Saint-Jean-Baptiste Lassalle aujourd'hui, et Reims, la ville natale de Saint-Jean-Baptiste de Lassalle, se devait de donner des solennités énormes à cette fête. Elle n'y manque pas, et à l'occasion des fêtes de la béatification, le supérieur général, le frère Joseph, s'arrête longuement au noviciat de Courlancy, et il dit, « Cher frère Arnoux, je vous apporte un cadeau, voici une relique de notre bienheureux père, et la voici. » Et le frère Arnoux s'approche. Il reçoit cette relique à genoux. C'est un reliquaire. Il y applique amoureusement ses lèvres. Car c'est un restant du corps de Saint Jean-Baptiste de Lassalle, tabernacle de la Trinité. C'est ça une relique. Et il porte le reliquaire sur l'autel du nouveau bienheureux. Le supérieur général ne peut s'empêcher de dire à mi-voix à son voisin, « Voici un saint qui porte les reliques d'un autre saint. » Et quand vient l'automne de 1888, quand s'achevèrent les derniers triomphes de la béatification? Mais l'épreuve s'est abattue sur le frère Arnoux, il est tombé malade. La pleurésie, il garde le sourire. Il sent bien que sa santé est en grand danger. En mars 90, le frère Arnoux soupire, « Enfin, enfin, mon remplaçant est désigné. Les novices vont avoir dans le cher frère Henri un vrai directeur et je pourrai me préparer tranquillement à la mort. » Vous connaissez des photographes amateurs qui aiment bien collectionner des groupes des individus. Or, en 1890, il y en avait un à Courlancy. Il aurait voulu avoir le frère Arnoux, mais seulement, on se faisait pas faire des photos comme ça. Il fallait poser pendant une minute ou quelque chose comme ça. Mais comment demander une chose à un saint pareil? Une chose pareille, c'est difficile. Alors, le photographe croyait que c'était pas possible. Il va le trouver puis dit, je voudrais bien vous demander une chose qui me ferait grand plaisir. Je voudrais vous photographier. Cela me ferait tant plaisir. Eh bien, allez-y, mais faites vite. Si on a perdu le corps et les ossements du frère Arnoux, qui ont été inhumés dans un cimetière public, c'est grand dommage. Mais c'est grâce au photographe de 1890 que nous avons la joie de voir ce saint tel qu'il était. Il a une très belle tête, douce. Et nous voilà au 23 octobre, oui, le 23 octobre 1890, il y a 106 ans, le dernier jour que le frère Arnoux va passer sur la terre, et vers les 9 heures du matin, il causait avec un frère. Il éprouve une atroce souffrance tout à coup. Oh mon Dieu, oh Jésus! Il maîtrise la douleur. Il descend la chapelle. C'est sa dernière visite à Jésus. Il avise un frère, aidez-moi, je vous en prie, pour monter à ma chambre. Et à peine étendu sur son lit, il perd connaissance, et autour de lui se presse le frère visiteur, l'infirmier, l'aumônier, puis il retrouve un moment le plein usage de ses facultés. Il peut faire une dernière confession, puis ensuite il tombe en agonie. On n'entend plus sa voix répondre aux prières. Quelques heures plus tard, son âme s'envole vers celui qu'elle a tant aimé. Et le 25 octobre, la maison du Sacré-Cœur est en grand deuil. Ce sont les funérailles. Après la messe de Requiem, le cortège funèbre traverse toute la ville de Reims pour se rendre au cimetière public, cimetière du Nord près de la gare. Et tout au long du parcours, les souvenirs remontent dans la mémoire des gens qui le voient. Il y en a qui crient « J'ai vécu avec un vrai saint » et d'autres disent « J'ai communié près de lui à la sainte table ». Les langues se délient, tout le monde déclare « C'était un saint ». Et le Vatican a approuvé le 26 janvier 1987 un miracle attribué au frère Arnoux. Et le 1er novembre suivant, il y a donc 9 ans, Jules Resch a été béatifié à Rome. Nous pouvons donc dire, bienheureux frère Arnoux Resch, priez pour nous. Si l'école confessionnelle vous tient à cœur, si vous trouvez que ça n'a plus de sens, comme dit un auteur, nos enfants toxicaux, nos enfants enrôlés dans les sectes, nos enfants perdus, ne sont-ils pas en train de nous dire que l'oxygène va manquer incessamment à toute notre civilisation? Si cela vous tient à cœur, si vous voulez défendre l'école confessionnelle, non pas qu'il n'y ait pas d'école neutre, il en faut des écoles neutres pour ceux qui ne veulent pas d'école confessionnelle, mais des vraies écoles confessionnelles, il nous en faut. Alors le mouvement scolaire confessionnel du Québec organise un dîner bénéfice demain soir. Oui, demain soir. Jeudi le 24 octobre à 19h au grand salon de l'hôtel Delta à Montréal. L'hôtel Delta, c'est 450 West rue Sherbrooke. Oh, le prix du billet n'est pas petit, c'est 100 $. Mais si pour encourager le mouvement scolaire confessionnel du Québec, il y aura une conférence de Mme Paulette Rancourt, présidente de la commission scolaire Prince d'Avelui, demain soir à 19h à l'hôtel Delta Montréal.